Bonsoir frères et sœurs. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole? Ça tombe bien parce que ce soir, je voudrais vous parler sur le thème de qu'il faut qu'on soit prêt. Mais pas seulement à entendre la parole, il faut qu'on soit prêt pour le retour du Seigneur. Et nous allons lire pour cela quelques versets dans 2 Pierre, chapitre 3. C'est l'apôtre Pierre qui se trouve à la fin de sa vie qui a écrit cette épître. Et le contexte dans lequel il a écrit, on se rend compte que c'est justement parce qu'il y avait des personnes qui enseignaient que le retour du Seigneur n'allait pas se passer. Ça faisait longtemps, pourtant à l'époque ça faisait moins longtemps que nous, ça faisait longtemps pour certains que le Seigneur avait promis certaines choses qui ne se réalisaient pas, et du coup certains remettaient en question le retour du Seigneur, et du coup ils se permettaient de dire ben, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de jugement, Dieu ne va jamais nous juger, donc on peut croire en Dieu, mais on peut vivre dans le péché. Voilà ce qui se passait à l'époque de Pierre. Voilà pourquoi aussi il a écrit cette épître pour avertir les personnes qui sont là et pour leur dire non, mais surtout, n'écoutez pas ces mensonges, le Seigneur revient bientôt, son retour est imminent et ça doit produire quelque chose dans notre vie. Voilà pourquoi nous allons lire au chapitre 3, le verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Regardez au verset 8. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Et parce que c'est écrit et parce qu'on est d'accord avec ce qui est écrit, on dit Amen. Amen. Je voudrais qu'on voit ensemble trois attitudes qui sont données dans ces chapitres que nous avons lus, qui nous parlent de ce qu'il faut faire pour être prêt. Bien sûr, je l'ai délimité par trois choses, mais les trois choses sont tellement imbriquées les unes aux autres qu'on comprend très bien qu'en faisant l'une ou l'autre, on va dans le bon sens. Les trois choses, elles, ce sont les suivantes. Les trois attitudes qu'il faut avoir, c'est que nous devons être attentifs aux avertissements. Nous devons attendre et hâter le jour du Seigneur. Et nous devons nous appliquer à vivre dans la sainteté. Vous êtes d'accord que ça correspond à ce qu'on a lu? Plus ou moins, hein? Mais on va voir que ça correspond vraiment. Et ces attitudes, on pourrait les résumer par le regard que l'on porte aux choses. Un regard sur les choses qui sont passées, un regard sur les choses qui vont venir, et un regard sur le présent. Première chose, ce regard sur le passé. Bien sûr, il n'est pas question de regarder n'importe quoi dans le passé. On connaît des personnes qui sont prisonniers de leur passé. Ils ont vécu des expériences douloureuses dans le passé, et jusqu'à aujourd'hui, ces expériences douloureuses leur pèsent sur leur cœur. Et le conseil ce soir, c'est pas de regarder vers ces choses. Le conseil, c'est de regarder vers les choses qui ont été écrites d'avance, vers la parole de Dieu. Vous comprenez la différence? Ça fait combien de temps que la parole de Dieu, ça a été écrite? Bon, on sait que ça a mis des millénaires pour qu'elle soit totalement écrite, mais ça fait combien de temps? Ça fait... La dernière portion a été écrite il y a 2000 ans en arrière. D'accord? Est-ce que c'est une chose passée? Dans le sens que ça nous l'a été donné il y a 2000 ans en arrière, oui. Mais le message est d'actualité, on est d'accord. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas dire d'hérésie. Hein. Non, non, non. C'est une parole qui est éternelle. Mais c'est quelque chose qui a été écrit d'avance. C'est ce que nous avons lu au verset 2. Les choses qui ont été annoncées d'avance par les saints prophètes et par les apôtres. Et nous avons besoin ce soir de regarder et de prendre garde surtout aux avertissements qui sont écrits dans la parole de Dieu. Et la première chose pour saisir ce que nous partageons, c'est de réfléchir à de quoi est-ce que nous sommes avertis dans la parole de Dieu. Quand on est averti de quelque chose, c'est qu'il y a un événement qui va se passer, c'est qu'il y a peut-être un danger qui va arriver, et quelqu'un vient nous avertir, attention, il y a ceci ou cela qui va se passer. Et dans la parole de Dieu, et dans ce chapitre en particulier, on se rend bien compte que ce dont il est question, c'est le retour du Seigneur. Et par rapport au contexte que je vous ai recadré tout à l'heure, c'est, on comprend le sens de cette lettre de l'apôtre Pierre. Mais est-ce que le retour du Seigneur, c'est un bon événement ou c'est un danger? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien? Ça dépend, moi je dirais. Ça dépend dans quel camp on se trouve. Ça dépend si le chant... On l'a lavé en disant, on l'a chanté en disant, oui Seigneur, tu m'as lavé de mon péché. C'est quelque chose que j'ai vécu, ou alors pas du tout. Dans le chapitre 2, le verset 9, juste à côté, vous voyez que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux, mais il s'est réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc le jour du jugement sera pour les uns un jour de délivrance et pour les autres ce sera un jour où justement la justice va avoir lieu. Et les œuvres mauvaises vont ressortir à ce jour-là, et on va être jugé en fonction de toutes ces choses. Mais comment est-ce que nous devenons pieux? La première chose, c'est de ce qu'il a été dit pendant les chants, c'est de saisir la grâce de Dieu, de croire au sacrifice de Jésus sur la croix, de faire la paix avec Dieu. De cette manière-là, on peut rentrer sur le chemin de la piété, et après, c'est de marcher dans l'obéissance. Mais regardez au verset 7, on ne l'a pas lu, mais regardez comment il est question de ce jour. Verset 7, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. On voit bien que l'apôtre Pierre, son désir, c'est pas de nous montrer que le jour du jugement, il n'y a rien qui va se passer de particulier. Le jour du jugement, ça sera un jour où ceux qui sont au Seigneur auront été déjà pris avec lui. Mais ceux qui seront restés sur la terre et qui seront contre le Seigneur, qui se seront rebellés et qui ne se seront pas repentis, connaîtront des temps particuliers. Le feu, la ruine, etc. Tous ces termes qui sont censés nous faire trembler quand on n'est pas au Seigneur, c'est ce qui doit arriver. Si nous avons une compréhension profonde de la vérité de la parole de Dieu et que nous ne sommes pas au Seigneur, ces paroles doivent nous faire trembler dans le cœur. Et nous devons dire, Seigneur, oui, je veux être prêt à ton retour. Être averti. Comment est-ce que nous pouvons être avertis? Première chose, première étape, c'est de lire et de connaître la parole de Dieu. Regardez à ce qui a été écrit dans le passé, comme on disait, mais qui est encore vivant et qui est encore valable pour nous aujourd'hui. Quand on voit au chapitre 3, au verset 16, ce qu'on a lu, il y avait des personnes qui pouvaient mal comprendre ce que Paul écrivait, les lettres que Paul écrivait. Le résultat, c'était des personnes ignorantes et mal affermies. Et je voudrais le redire d'une façon différente, c'est que des personnes sont mal affermies, des personnes ne sont pas solides dans la foi, souvent parce qu'elles sont ignorantes de la parole. Comprenez? C'est pour ça que je dis, la première chose pour être averti, c'est de connaître les avertissements. En lisant la parole de Dieu, en connaissant la parole de Dieu. Combien de personnes arrivent peut-être à la fin de leur vie et se rendent compte que peut-être ils n'ont pas lu toute la Bible? Quel malheur ça serait pour quelqu'un d'avoir des années et des années de conversion et de dire « j'ai pas lu toute la Bible ». On est d'accord que c'est pas le fait de lire toute la Bible qui fait qu'on est meilleur qu'un autre. Mais est-ce qu'il n'y a pas, il ne devrait pas y avoir au moins dans notre cœur une soif pour la parole de Dieu? Je sais que moi, quand je me suis donné au Seigneur tout à nouveau dans mes années, j'avais 19 ans, je sais qu'en l'espace de quelques mois, ce que je n'ai pas réussi à faire pendant 19 ans, j'ai réussi à le faire en quelques mois, lire la parole de Dieu en entier. Mais parce qu'il y avait une soif dans mon cœur, il y avait quelque chose qui était là, qui me poussait à lire la parole de Dieu. Et c'est vrai que je ne comprenais pas tout, c'est vrai qu'il y avait des choses qui me passaient par-dessus, mais j'étais heureux de pouvoir lire cette parole de Dieu et d'être affermi dans ces choses. Parce que quand on est ignorant, on n'est pas affermi. Mais quand on connaît, même si on ne connaît pas tout, même si on ne comprend pas tout, il y a une force qui nous est communiquée par la parole de Dieu. Au verset 8, on l'a lu rapidement, mais je ne sais pas si vous y êtes arrêté à cela. Il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. On voit que l'apôtre Pierre, là, il est catégorique, il est dans la fin de sa vie, il sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre sur cette terre, et il met tout son cœur dans les paroles qu'il écrit. Il y a des choses que l'on n'a pas le droit d'ignorer. Vous savez, on a un proverbe dans la société, c'est « nul n'est censé ignorer la loi ». C'est-à-dire que quand les députés ou l'Assemblée nationale sortent des projets de loi, on est censé connaître tout cela et être en accord avec la législation. Et c'est sûr qu'il faut se renseigner, etc. Il faut faire du mieux qu'on peut. Mais devant un tribunal, le fait de dire « mais je suis désolé, je ne connaissais pas la loi », c'est un argument qui ne tient pas. Et vous savez que devant Dieu, c'est pareil. C'est la même chose. Et combien c'est à plus forte raison, c'est vrai aux yeux de Dieu, nous n'avons pas le droit d'ignorer, nous en plus qui sommes au Seigneur, n'avons pas le droit d'ignorer la loi de Dieu et les avertissements qui sont contenus dedans. Face aux avertissements, nous avons un choix, soit de nous rappeler les choses que nous avons lues et de nous y attacher, soit de les oublier. Et s'il y a bien quelqu'un qui peut nous parler de l'importance de se rappeler, de se souvenir, on voit l'apôtre Pierre qui écrit en plusieurs reprises au verset 2, « afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance ». On voit que cet homme, son cœur était vraiment rempli de ce désir que les personnes se souviennent de ce qui avait été écrit. S'il y en a bien un qui peut nous parler de ça, c'est l'apôtre Pierre. Parce qu'il a vécu avec le Seigneur certaines choses. Vous vous souvenez de cette petite histoire? Quand Jésus l'avertit, lui donne un avertissement, le Seigneur. Quand le coq aura chanté trois fois, tu m'auras renié. Allez, à Dieu ne plaise. Non, ça n'arrivera pas, Seigneur. Moi, je serai là. Et puis tous les autres qui voient que Pierre, il a dit une parole comme ça, ils disent, oui, nous aussi, c'est pareil. Mais Pierre, lui, il s'était engagé. Il a dit, non, moi, je te renierai jamais. Même si je dois mourir, Seigneur. Mais Jésus, est-ce que vous croyez qu'il a averti pour lui faire du mal, pour le faire douter, ou pour qu'il puisse s'accrocher? Est-ce qu'il n'a pas averti justement pour que dans le jardin de Gethsémané, Pierre il puisse être là dans la prière et dire « Seigneur, tu vois, je sais que je risque de renier, mais Seigneur, donne-moi la force ». Est-ce que Pierre il a fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est endormi. Et le résultat, c'est que quelques instants après, quelques heures après, il a oublié l'avertissement. Et alors que les gens lui disaient, mais oui, tu étais avec cet homme. À trois reprises, les personnes lui disent, tu étais avec le groupe qui accompagnait Jésus. Et Pierre dit, non, c'est pas vrai. Non, je vous assure, c'est pas vrai. Trois reprises, le coq chante. Et au moment où le coq chante, qu'est-ce qui se passe? Il se souvient. Est-ce que Pierre, qui a vécu cette expérience, et pas le mieux placé pour nous dire, surtout, souvenez-vous des avertissements. Quand le Seigneur Jésus vous donne un avertissement, souvenez-vous de ces choses. Et faites-les vôtres, prenez-les pour acquis vraiment et repassez-les dans votre cœur. Parce qu'on voit que quand Pierre il veut faire passer un message, il n'hésite pas à répéter les mots. Comme vous n'avez pas remarqué dans ce passage, dans ce chapitre 3, ça serait intéressant de voir dans toute l'épître, mais dans ce chapitre 3, j'ai regardé un petit peu toutes les fois où il parle du jour du Seigneur. Il parle au verset 3, il parle des derniers jours. Au verset 7, il parle du jour du jugement. Au verset 10, il parle de le jour du Seigneur, le jour où les cieux passent avec fracas. Au verset 12, le jour de Dieu, le jour où les éléments embrasés se dissoutent. Et il répète le jour du Seigneur pour montrer l'importance de réaliser que le jour du Seigneur approche. C'est une réalité, c'est quelque chose que nous devons prendre en compte. C'est un avertissement qu'il nous donne afin que nous puissions adapter notre vie par rapport à cela. Qu'est-ce que faisait Marie quand elle a vu tout ce qui s'est passé? Marie, la mère de Jésus, qu'est-ce qu'elle faisait quand elle a vu tous les événements qui se sont passés par rapport à la naissance, par rapport aux paroles de Jésus quand il était dans le temple, etc. Il est dit qu'elle repassait dans son cœur toutes ces choses. Est-ce que nous n'avons pas besoin, pour que les avertissements du Seigneur produisent du fruit en nous, de repasser ces choses dans notre cœur, et même si nous ne les comprenons pas entièrement, de les repasser, de les ruminer dans notre cœur, afin d'en pouvoir vraiment bénéficier de toute la vie que le Seigneur voudrait que ces choses nous apportent. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'être avertis? L'apôtre Pierre, dans ce passage, il a comparé le jour du Seigneur il viendra comme un voleur. Si nous sommes avertis de la venue du voleur, par exemple, si cette nuit un voleur vient chez vous, que vous êtes au courant, est-ce que vous allez vous endormir en mettant le réveil toutes les heures pour vérifier qu'il est présent? À 11h, c'est bon, il n'est pas là. Minuit, c'est bon, il n'est pas là. Est-ce que c'est comme ça que vous allez procéder? Ou alors, parce que vous savez qu'il y a un voleur qui va venir, vous dites, je vais appeler la police, parce que moi, tout seul, je ne pourrais pas le neutraliser, mais j'ai besoin de plus de force. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'être avertis? On est d'accord que quand ce sera le retour du Seigneur, le Seigneur, ce n'est pas un voleur, l'image, elle n'est pas là. Ce qui est important, c'est la surprise, ce moment où on ne s'y attend pas. Et justement, l'avertissement, il est là pour nous dire, mais soyez dans une attention particulière. Mais nous avons besoin d'être affermis. Regardez avec moi au verset 17 qu'on a lu. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes avertis. Mettez-vous sur vos gardes, ou tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Allons ensemble dans le chapitre 1er, voir quelques paroles que on voit bien que cette épître tout entière, cette lettre de l'apôtre Pierre, elle a pour vocation d'avertir les chrétiens. Et au verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordé. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Combien c'est important d'être averti, d'être attentif aux avertissements. Combien c'est important. On voit que le cœur de l'apôtre Paul bat sur cette vérité que les chrétiens ont besoin d'être avertis, mais qu'ils ont besoin plus que d'être avertis, ils ont besoin d'être attentifs aux avertissements. Ils ont besoin de se souvenir, ils ont besoin de repasser ces choses dans les cœurs. Nous avons besoin de cela, d'avoir ce regard sur les choses qui ont été écrites dans le passé pour que nous puissions en être saisis. Deuxième aspect, il nous faut attendre et hâter le jour du Seigneur. C'est ce regard sur les choses. On a été averti de ce qui va se passer. Maintenant, on regarde, on attend avec impatience que ça se passe. Et la conséquence que ça a dans notre vie, c'est qu'on a une attente active. Est-ce que nous pouvons hâter le jour de Dieu? C'est ce qui est dit dans chapitre 3, verset 11. Puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu. Est-ce que nous pouvons faire en sorte que le jour que le Seigneur a décrété dans le ciel depuis avec toute son autorité depuis des siècles, avant même que le monde existe, est-ce que nous pouvons faire en sorte qu'il soit déplacé d'un jour? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a cette capacité-là? On n'en a pas, c'est sûr que non. Si vous en doutez, vous lisez justement dans Actes chapitre 1er, vous voyez que c'est le Père qui a décidé ces choses, et que dans Marc 13 par exemple, il est dit que le Père seul sait quand ces choses arriveront, quand c'est qu'il aura lieu ce jour. Mais quand l'apôtre Pierre nous dit qu'il nous faut attendre et avoir cette attente active, Le fait de hâter, ça veut dire qu'il faut qu'on soit dans les conditions pour que ce jour arrive. Et nous, on respecte ce que le Seigneur a prédit d'avance. Par exemple, il a dit qu'il faut que la parole de Dieu soit annoncée à toutes les nations. Donc, il faut que nos vies puissent contribuer à cela. Imaginez un instant. J'ai pris des exemples de personnes qui doivent attendre. Le propriétaire, donc on a pris tout à l'heure, qui attend le voleur. Est-ce qu'il attend de manière active ou passive ? On est d'accord qu'il se prépare à recevoir le voleur, d'une manière ou d'une autre. Le coureur, celui qui est sur une course, l'athlète, est-ce qu'il attend que la course soit terminée en se croisant les bras ? Ou est-ce qu'il ne doit pas justement mettre tous ses efforts pour aller jusqu'au but ? Vous comprenez ? L'attente active, le chrétien d'ailleurs est comparé à un athlète qui est dans la course de la vie, qui mène vers le but, vers le Seigneur. Il y a cette attente-là, mais on comprend très bien que l'attente que le Seigneur nous demande d'avoir, ce n'est pas ça. L'attente, c'est justement de courir, de faire ce que le Seigneur nous demande de faire, d'avoir cette attitude de cœur où on est dans la volonté de Dieu, on cherche à être dans la volonté de Dieu et on fait ce que le Seigneur nous montre. Le laboureur qui attend la récolte, est-ce qu'il ne doit pas aussi prendre soin de tout ce qu'il y a autour de toutes les mauvaises herbes qui seraient là, qui viendraient pousser, les animaux qui viendraient manger, etc. Est-ce que l'agriculteur qui attend qu'il la récolte, il n'est pas en train d'attendre activement qu'il y ait la moisson abondante ? Comprenez ? Et nous avons besoin d'avoir cette attente active. Comment est-ce que nous attendons le Seigneur ? Est-ce que nous nous lassons ? Ou est-ce que nous vous attendons avec persévérance ? Est-ce que nous avons l'âme assoiffée et languissante du retour du Seigneur ou est-ce que nous sommes dans la crainte ? Vous savez, moi, il y a un moment donné dans ma vie où, quand je pensais au retour du Seigneur, j'étais dans la crainte, tout en étant au Seigneur. Mais parce que je comprenais que la sainteté de Dieu, je comprenais qu'il y avait des choses que je n'avais pas réglées. Et j'étais heureux tout à l'heure quand Jérôme a pris ce chant « J'ai soif de ta présence » parce que j'avais demandé au Seigneur que le chant puisse le prendre sans lui dire. Et le Seigneur a permis que ça se fasse parce que j'avais marqué ce chant m'a impressionné parce qu'on chante « J'ai soif de ta présence ».« J'ai soif de ta présence », c'est merveilleux. Un beau cantique qui nous élève vers le ciel. Mais imaginez un instant que le Seigneur nous prenne à la lettre. Quelle est la meilleure façon que le Seigneur exauce notre prière quand il dit « Mais je vais répondre à ta prière, je vais te donner de ma présence en abondance. » C'est-à-dire qu'il va nous dire « Mais je te reprends avec moi. » Est-ce qu'on va tous être là « Oui Seigneur, j'ai soif de ta présence. » Ou est-ce qu'il n'y a pas certains qui vont peut-être dire dans leur cœur « Mais non Seigneur, c'est trop tôt. » Il y a toutes sortes d'excuses qui vont commencer à venir. « Je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore connu l'amour Seigneur. Je n'ai pas eu encore le privilège d'être un papa ou une maman. Seigneur, je suis trop jeune. Je n'ai pas encore vu mes arrière-petits-enfants. C'est trop tôt Seigneur. » Vous voyez, on chante « J'ai soif de ta présence. » Mais souvent, ce qu'on cache derrière ces paroles, ce n'est pas la présence de Dieu. Le couronnement que ça va être dans le ciel, d'être dans la présence du Seigneur, sans limite, sans barrière. On chante souvent, Seigneur, je veux une petite émotion pendant la réunion. Vous comprenez la différence ? Et quand on chante, j'ai soif de ta présence. Et si le Seigneur choisit de nous reprendre pendant qu'on chante ce chant, moi je crois que c'est la plus belle des morts. Je crois que c'est ce que je voudrais, mourir de cette manière. Mais en tout cas, peu importe le temps où le Seigneur choisit de me reprendre, je veux avoir cette soif. Non seulement la présence du Seigneur pendant une réunion, mais la soif du retour du Seigneur. Et pas avoir cette crainte, pas avoir peut-être une angoisse, pas avoir quelque chose qui est là, qui me titille, parce que je me dis, mais je ne suis pas en règle avec le Seigneur. S'il y avait quelque chose, Seigneur, je veux régler, je veux te demander pardon. Je veux, Seigneur, me repentir. Et je veux qu'il n'y ait rien qui se passe, rien qui me sépare de toi, rien qui me sépare de cette communion avec toi. Est-ce que vous savez que nous avons été créés pour être en communion avec le Seigneur. Et quand nous chantons ce chant, j'ai soif de ta présence, nous ne faisons que dire, Seigneur, je veux faire ce pourquoi je suis créé. Et je sais que quand je serai dans le ciel, ça sera le couronnement de mes prières où le Seigneur pourra se révéler à moi sans barrière, comme je l'ai dit. Attendre et hâter le retour du Seigneur. Peut-être quelqu'un va dire, mais moi, si le Seigneur me reprend ce soir, j'ai pas encore témoigné à ma famille, j'ai pas osé parler à mes collègues. Et je vous pose la question, mais alors qu'est-ce que vous attendez? Je crois que dimanche, ça a été assez bien expliqué, ce que nous avons besoin de faire. Attendre activement, c'est faire aujourd'hui ce que je dois faire pour l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que nous attendons finalement? Parce qu'on a dit oui, le retour du Seigneur, mais vous savez que ce vers quoi nous regardons, ça a une influence sur notre comportement. On peut se tromper dans les choses que nous attendons. Je pensais à l'homme riche qui attendait la retraite dans la parole de Dieu dans Luc 12. Vous savez cet homme riche qui disait « je vais bâtir des greniers, etc., je vais mettre toutes les récoltes et puis après je vais me reposer de mes œuvres et jouir de la vie ». Il attendait la retraite, comme on peut attendre la retraite de notre époque. Bon, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais est-ce que c'est ça l'objet de notre attente profonde, la retraite? On voit que cet homme, lui, son âme lui a été redemandée la nuit même. Et son attente a fait qu'il a été trompé dans les choix qu'il a faits. Vous comprenez? Il y avait des malades qui attendaient le mouvement de l'eau. Sauf qu'il y a eu Jésus qui était celui qui apporte la vie, qui est passé à côté, et les malades qui étaient focalisés sur le mouvement de l'eau n'ont pas vu celui qui apporte la guérison. Il n'y en a qu'un qui a été au bénéfice. Vous voyez que quand on attend des mauvaises choses, ça trouble notre vision. Le boiteux qui était assis sur les marches du temple, vous vous souvenez de cette histoire? Quand il a vu Pierre et Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Il a cru qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Pierre et Jean ont vu qu'ils s'attendaient à recevoir quelque chose d'eux. Heureusement, ces hommes avaient cette compréhension de la présence de Dieu, de la capacité que Jésus était capable de le guérir, et ils lui ont apporté ce qu'il avait besoin d'avoir, parce qu'il demandait ce qu'il avait besoin d'avoir. Est-ce que vous aimeriez pas que le Seigneur vous utilise de cette manière pour apporter ce que les gens ne demandent pas forcément, mais ce qu'ils ont besoin d'avoir? Comme Pierre et Jean l'ont expérimenté. Il voulait avoir une pièce de monnaie, il a reçu la guérison. Qu'est-ce qui était le mieux pour lui? On est d'accord, c'est la guérison. Et Dieu sait tellement mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et Dieu sait tellement mieux que nous ce que les autres autour de nous ont besoin. Et il veut se servir de nous. C'est ça l'attente active. Je vais rapidement. Il faut avoir un regard clair sur la parole qui est révélée. Regardez au verset 13. « Mais nous attendons, c'est marqué noir sur blanc, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Ça veut dire que s'il y a des nouveaux cieux, s'il y a une nouvelle terre, tout ce que je possède ici-bas, tous les biens que je peux avoir, toutes même les relations que je peux avoir avec les personnes, tout cela, un jour, ça va disparaître. Donc, à quoi ça sert de passer ma vie à construire quelque chose qui va disparaître un jour? Vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en question, ne plus aller au travail, ne plus payer son loyer. On est d'accord qu'il faut être dans la sagesse et le bon sens. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas mettre la priorité sur ces choses, il faut mettre la priorité sur le fait que je veux avoir ma place dans ce nouveau ciel et cette nouvelle terre. Une terre où la justice habitera, ça veut dire que peu importe l'injustice que je connais aujourd'hui, peu importe la moquerie que je peux entendre aujourd'hui à cause de ma foi, je sais que Dieu me fera justice. Je sais qu'il y a un endroit où Dieu fera justice pleinement, un endroit où la justice habite. Et c'est quelque chose qui doit me réjouir. Et je termine avec ce troisième point, où je vais aller beaucoup plus vite, ne vous inquiétez pas. Nous avons besoin d'être attentifs aux avertissements, d'attendre et de hâter le jour du Seigneur, mais d'appliquer, de nous appliquer à vivre dans la sainteté. Le regard sur le présent. C'est bien de regarder à l'avenir toutes les promesses du Seigneur. C'est bien d'avoir une compréhension de ce qui va se passer. Mais c'est aujourd'hui qu'on a besoin de faire quelque chose vraiment. On l'a lu. Quel ne devez-vous pas être dans la conduite et dans la piété? Combien vous devez être saint? Il y a besoin d'avoir une application, quelque chose de profond, de véritable, une ferveur dans les choses que nous faisons. Ça passe sur un regard clair du présent. Le but des prophéties bibliques, c'est pas Il y a quelqu'un qui a dit ça, c'est pas la spéculation, c'est pas de dire, voilà, le Seigneur, il va prendre l'église avant le millénium ou après le millénium. Il y a des gens qui font des débats, toutes sortes de débats théologiques. Il y en a qui connaissent parfaitement le calendrier eschatologique, excusez-moi les termes barbares. En tout cas, il y a des gens qui font toutes sortes de, qui vont dans des conférences pour remplir leur ordinateur de toutes les données qu'ils entendent. Israël, etc. Oui, les tribus, il y en a une qui est là-bas, ils connaissent tout par cœur. Et puis leur vie, elle est pas sainte. À quoi ça sert? À quoi ça sert toutes ces choses? Le Seigneur nous dit, au travers de son apôtre Pierre, c'est bien de connaître la parole, c'est bien de connaître ce qui va se passer, mais qu'aujourd'hui vous puissiez marcher dans la sainteté. Vous appliquez. À quoi est-ce qu'il faut s'appliquer? Dans la parole, on voit toutes sortes de choses, mais en verset 11, on l'a dit, s'appliquer à une conduite et une piété saine. Au verset 18, on voit qu'il faut s'appliquer à faire des progrès. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Combien on a besoin de s'appliquer à faire des progrès. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le fait de ne pas faire de progrès, ça montre qu'on n'est pas en bonne santé. Mais quand on s'applique à faire des progrès, ça ne veut pas dire faire des grands pas de géant à chaque fois. Des petits progrès, un jour après l'autre. Un pas après l'autre, je progresse. Ah, je me mets un petit peu moins en colère. J'arrive à prier un peu plus longtemps. Peu importe les progrès dans lesquels, les domaines dans lesquels le Seigneur nous conduit. En tout cas, je fais des progrès. Mais nous appliquer aussi à l'œuvre de Dieu. Est-ce que nous aimons l'œuvre de Dieu? Il y a un jour, Moïse qui allait appeler des hommes qui allaient servir pour construire le tabernacle. Et Moïse appela Bezaleel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis l'intelligence. Pourquoi est-ce que Dieu avait mis l'intelligence dans ces hommes? Parce que c'était des hommes dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre de Dieu pour l'exécuter. Est-ce que nos cœurs sont disposés à s'appliquer à l'œuvre de Dieu, à travailler, à être utiles dans le royaume de Dieu? Est-ce que nos cœurs sont disposés à s'appliquer, à travailler à tout cela? Parce que si c'est le cas, vous inquiétez pas, le Seigneur va pourvoir à vos carences, va pourvoir à vos manques, va pourvoir à vos failles. S'il y a des choses que vous ne savez pas faire, mais que le Seigneur vous demande de faire, parce que c'est lui qui vous appelle, il vous donnera ce qu'il faut. C'est exactement ce qu'il est dit. Mais voilà, dans notre cœur, il faut que nous nous appliquions. Et je finis avec ce dernier verset. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 5, nous parle d'un homme, un roi, qui s'est appliqué à chercher Dieu. Le problème de ce roi, c'est qu'il s'est appliqué à le chercher pendant toute la vie d'un sacrificateur de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et la Bible nous dit que dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Qui ce soir voudrait que Dieu le fasse prospérer, spirituellement bien sûr? Qui ce soir voudrait que Dieu le bénisse? Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on veut être dans ce cas. Cet homme s'est appliqué à chercher Dieu. Mais le problème, c'est qu'on voit quelques versets plus loin, son cœur s'est élevé. Quand il devint puissant, son cœur s'est élevé, il s'est détourné de Dieu. Et il a commencé à faire des choses que Dieu ne lui demandait pas de faire. Et même à mépriser la parole de Dieu. Ce soir, nous avons besoin de nous laisser convaincre par les avertissements du Seigneur, de laisser ces paroles nous montrer ce que nous avons besoin de faire aujourd'hui, avoir ce regard clair sur ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui, dans quel domaine de ma vie je dois marcher encore plus dans la sainteté. On a besoin de faire les choses, pas du bout des lèvres, pas louer le Seigneur du bout des lèvres, pas chanter les cantiques parce qu'il faut les chanter, pas prier parce que le pasteur a dit qu'il faut qu'on prie, mais faire les choses parce qu'on s'y applique. Dans notre cœur, il y a une décision, une résolution d'obéir à la parole de Dieu. Il y a une résolution d'être saint, il y a une résolution d'être en conformité avec ce que le Seigneur demande. Pourquoi? Parce qu'on veut être du voyage quand le Seigneur va revenir nous chercher. Il y en a qui veulent être du voyage, qui veulent avoir le ticket. Ticket, bien sûr, ce n'est pas un ticket matériel, mais c'est notre nom inscrit dans le livre de vie. Celui qui aura ce nom inscrit dans le livre de vie, le Seigneur le prendra. Alors ce soir, oui, soyons prêts. Si nous ne sommes pas prêts, faisons ce qu'il faut pour être prêts. On va se recueillir un instant. Et je vais prier que le Seigneur, par son esprit, continue de parler au cœur. Quelqu'un ce soir peut-être, comme ça a été dit aussi dans le don spirituel, quelqu'un reste sourd aux avertissements de la parole de Dieu. Et le Seigneur vous permet ce soir d'entendre à nouveau ces paroles pour vous montrer que c'est lui, c'est pas un homme, mais c'est lui qui vous cherche parce qu'il vous a créé pour être en communion avec lui. Le péché est venu rompre cette communion et vous séparer de lui. Mais le Seigneur voudrait vous ramener dans sa présence, vous amener si vous ne l'avez jamais été. Ne soyez pas sourds. Ne restez pas stérile et indifférent face à la voix de Dieu, mais soyez attentifs à ses avertissements et soyez guéris par sa parole. Quelqu'un peut-être a besoin de reconnaître qu'il est en train d'attendre le retour du Seigneur, mais qu'il le fait de manière passive. Il attend que ça arrive, mais il ne prépare pas sa vie. Ce soir, dans ces instants, le Seigneur vous dit « Attends ». Et hâte le jour du Seigneur. Sois un témoin là où tu es. Marche dans la sainteté. Peut-être quelqu'un d'autre a besoin d'entendre cette parole justement. Applique-toi à faire des progrès. Applique-toi à marcher dans la sainteté. Applique-toi à chercher la volonté de Dieu. Il n'est pas question de courir de tous les côtés pour faire tout ce qu'on peut. Il est question de faire ce qu'on doit faire, ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais si on s'applique, si on prend un temps pour chercher le Seigneur vraiment, alors il nous parlera, alors il nous montrera, alors il prendra soin de nous, et alors nous serons prêts. Oui, quelle grâce de regarder à ce qui va venir, à ce royaume où la justice habitera, où toutes nos larmes seront essuyées. Quelle grâce de savoir que notre nom est inscrit dans ce livre de vie et que nous serons du voyage avec le Seigneur. Oh oui, nous voulons être prêts. Je vais prier le Seigneur. Merci Éternel. Merci parce que tu nous montres par ta parole ce que nous devons faire pour être prêts à ton retour, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, obéir à ta parole. Comme nous l'avons chanté, nous croyons que, Seigneur, tu es ce Dieu qui nous donne des avertissements pour notre bien. Et nous voulons nous rappeler, Seigneur, de toutes ces choses. Nous voulons connaître ta parole. Nous voulons nous appliquer à être affermis dans ces choses, Seigneur. Pas être fragile dans la connaissance de ta parole, mais affermis afin de tenir bon, Seigneur, malgré la difficulté des jours, Seigneur. Merci dans cette soirée de sauver encore quelqu'un. Merci de cette soirée de faire du bien, de faire grâce à quelqu'un, Seigneur. De guérir, Seigneur, d'encourager quelqu'un qui est peut-être abattu, qui est peut-être découragé à cause des moqueries, des railleries. Mais Seigneur, nous voulons non pas regarder à ceux qui se moquent, nous voulons regarder à toi qui reviens bientôt et être prêt pour ton retour. Et en attendant ton retour, nous appliquer à marcher dans la sainteté pour la gloire de ton nom éternel. Amen.